bonjour et bienvenue au premier podcast du gang d'élite, l'électrice intrépide et téméraire, complice dans le crime chiffonnette.
Bonjour.
Stéphanie.
Bonjour. Et Sachem.
Dans la rubrique Dans la poche, c'est Chiffonnette qui va nous parler de...
Alors, j'ai choisi de parler de Roman Bulgakov, un auteur russe qui est, me semble-t-il, beaucoup plus connu pour son roman qui s'appelle Le Maître et Marguerite que pour le roman de Molière qui gisait dans ma paille depuis maintenant quelques années.
Et il n'était pas tout seul, d'accord.
Il était meilleur, mais sans problème. Si j'étais la seule ici, je dirais que oui. Et là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quand même. Hein. Alors, le roman de Monsieur Molière. Bulgakov, c'est un roman qu'il a écrit. C'est pas vraiment une biographie, mais c'est pas un roman pur et dur. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré, et c'est extrêmement bien documenté, sur la vie de Molière. Donc, il part vraiment des anecdotes, de tous les événements petits et grands de la vie de Molière, pour retracer son histoire de sa naissance à sa mort. C'est extrêmement bien fait. On sent l'amoureux de Molière, l'amoureux de la littérature française. D'ailleurs, il commence le roman par une adresse extraordinaire à la sage-femme qui est en train d'accoucher la mère de Molière. Il dit qu'elle tient, quelque part, l'avenir de la littérature française dans ses mains et que surtout, elle ne fasse pas d'erreur, parce que ce serait vraiment tragique pour tout le monde. Bulgakov a une plume très enlevée, très légère, très drôle, et en même temps, il aborde tous les aspects un petit peu plus sombres de la vie de Molière, sa dépression, son attitude face aux échecs, un certain nombre d'autres choses comme ça, qui rendent Molière vraiment très vivant au cours de la lecture. J'ai dévoré les environ 300 pages du roman en 3 heures. C'est passionnant, c'est très drôle aussi, et c'est une analyse extrêmement fine de la position de l'art face au pouvoir. Il est beaucoup question de l'amitié étrange qui a lié Molière à Louis XIV. Ça, il faut quand même savoir que un des enfants de Molière, mort en bas âge, a eu pour parrain le roi de France. Rien de moins, quand même. Une chose est certaine, Molière était quand même très ami, enfin, dans la mesure où on peut être ami avec le roi, il était très ami avec Louis XIV. Pour moi, c'est un roman qui a frôlé le coup de cœur. C'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu. On est très proche de la biographie historique sans y être. C'est un vrai plaisir de lecture.
Et donc, c'est le roman de Monsieur Molière, de Mikhaïl Bulgakov, publié chez...
Chez Folio.
Donc dans la rubrique cours de récré, c'est Stéphanie qui va nous parler de ses lectures jeunesse sur le thème des correspondances.
Ce mois-ci, j'ai eu envie de traiter deux livres qui sont en fait des correspondances, l'une réelle et l'une fausse, entre deux jeunes filles. Donc le premier livre, c'est « Si tu veux être mon amie » de Galip Fink et Mervet Akram Chaban. Désolée pour la prononciation des noms. Donc il s'agit de Mervet qui a 13 ans et qui est palestinienne et vit donc dans un camp, et de Khalid, 12 ans, qui vit à Jérusalem. En 1988, alors que l'intifada fait rage, elle commence à s'écrire par le biais d'une journaliste qui va en fait leur permettre de se connaître. Donc elles ne vont pas se rencontrer tout de suite, et on peut suivre à travers cette vision un peu enfantine, puisqu'il s'agit de préadolescentes de 12 et 13 ans, un peu enfantine, de cette guerre qui fait le rage. Donc c'est un très beau éclairage sur l'intifada. C'est une belle histoire d'amitié qui malheureusement n'a pas beaucoup d'espoir de perdurer au-delà de l'adolescence. Et ça permettra, je pense, d'avoir une discussion avec ses enfants, si on veut leur faire lire, sur ce qu'est la guerre, sur ce qui se passe en Israël, mais aussi dans d'autres parties du monde, et sur pourquoi les enfants devraient se retrouver aussi pris dans une guerre et être obligés de détester l'ennemi que détestent aussi leurs parents. Quelque chose de très profond, qui au niveau littéraire n'est pas exceptionnel, parce que bien sûr il s'agit d'une correspondance réelle, mais qui au niveau témoignage est fabuleuse.
Elle se voit plus, ces deux jeunes filles?
Alors,
c'est de 88.
Alors, c'est en fait, on a le suivi au travers de leur adolescence et un peu plus tard. Ça rappelle pour ça certaines séries de documentaires qu'on a pu voir sur des chaînes françaises où c'était avoir 20 ans dans telle ville. Mais là, c'est pareil, on les connaît à 12 et 13 ans et on les voit plus tard, ce qu'elles sont devenues actuellement et est-ce que leur amitié a survécu ou pas.
D'accord.
Je réponds pas à la question, je sais pas.
Je vois ça.
Je suis pas tombée dans le piège. Et la deuxième, c'est une correspondance fictive cette fois-ci, les lettres de l'intérieur de John Barsden, dans la collection Medium de l'École des loisirs, qui est entre parenthèses une collection que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il propose des choses vibrantes et bien adaptées. J'ai commencé adolescente à lire avec leur collection, donc il y a une certaine nostalgie chez moi aussi, peut-être, je dois l'avouer. Donc celle-ci, c'est entre deux jeunes filles, Mandy et Tressay, qui sont un peu plus vieilles, 15-16 ans. Tressay, un jour, un dimanche pluvieux, s'ennuie et elle décide de passer une annonce pour rechercher une correspondance. Mandy envoie la première lettre et la réponse de Mandy est la seule valable aux yeux de Tressay. Donc c'est avec elle qu'elle va commencer à correspondre. Ça fait un témoignage sur la vie adolescente de deux jeunes filles aux États-Unis. Mais peu à peu, surtout, on va tomber dans une sorte de secret parce que Mandy confie une lettre à un ami pour la donner à main propre à Tressay. Et en fait, Tressay n'a jamais été inscrite au lycée dont elle parle. Donc Mandy va se poser des questions, elle va chercher à comprendre, et on va apprendre un peu plus tard qu'en fait Tressay est une jeune délinquante qui est dans un centre surveillé. Donc encore une fois, ça permet en fait de se poser des questions sur l'enfermement des adolescents. C'est au travers de quelque chose qui est pas déprimant, donc vous inquiétez pas, c'est pas une grande réflexion, mais ça permet de se poser des questions. Voilà.
Merci. Donc si tu veux être mon ami,
collection Folio Junior et John Marsden, Lettres de l'intérieur, chez Medium de l'École des loisirs.
Donc je profite de la rubrique jeunesse pour rajouter un petit mot, signaler la réédition chez Gallimard Jeunesse du Garçon bien marié de John Boyne, qui est sorti en 2006. Et là, c'est, donc Gallimard l'a réédité en brochet dans un très bel ouvrage.
À une très belle couverture.
Ouais. Et vraiment la qualité du papier très agréable, enfin c'est vraiment chouette. Pour coller à l'actualité, puisque ça a été adapté au cinéma et le DVD est sorti le 12 août, je crois. C'est un film de Marc Herrmann que je n'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu, les filles.
J'ai loupé aussi.
Bon, on l'a tous loupé. Donc, je pitch rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, en fait.
Et c'est encore possible.
Et c'est encore possible, manifestement, la preuve, puisque moi, je n'avais pas lu, j'ai profité de la réédition pour le lire. Donc, Bruno, c'est le héros de l'histoire, a 9 ans, et c'est le fils d'un SS à qui Hitler a donné la direction du camp d'Auschwitz. Il est livré à lui-même, donc, dans cette nouvelle maison, ce nouvel environnement. Et il s'ennuie terriblement dans cet univers très étrange. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne veut lui expliquer ce qui se passe de l'autre côté des barbelés. Il voit bien de la fenêtre de sa chambre qu'il y a des gens qui sont manifestement pas comme lui, et bien sûr personne ne veut lui donner d'explication. Donc il va développer à leur égard une curiosité extrêmement intense jusqu'au jour où il rencontre, en marchant le long de la barrière qui entoure le camp, il rencontre de l'autre côté du grillage un petit garçon qui a son âge et qui s'appelle Shmuel et avec qui il va développer une amitié. Donc il ne faut surtout pas en savoir trop avant de lire ce livre parce qu'il y a une chute assez terrible. Il faut donc se laisser porter par l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était très réussi et très poignant, notamment grâce au choix d'une narration en fait. C'est raconté à la troisième personne, mais c'est comme si on était dans les pensées de Bruno. Donc on le suit totalement et on a l'impression très bizarre d'être à la fois dans sa tête. Donc par exemple, il modifie des noms, il comprend pas ce qui se passe, etc. Et en même temps, comme nous, on est des adultes et puis qu'on est en 2009, on anticipe parfaitement ce qui va se passer, on comprend ce qui se passe autour. Et donc ça crée un climat extrêmement pesant qui est très réussi. Je pense qu'on peut le faire lire dès l'âge de 13 ans. Je le recommande à tout le monde. Il a reçu de nombreux prix aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, pardon, en Irlande, parce que c'est un roman irlandais. Il a reçu de nombreux prix en Irlande. Il s'est vendu 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et je crois qu'il est disponible aussi en Folio Junior.
Ah oui, il est disponible en Folio Junior. J'étais étonnée de voir que chez Gallimard, en fait, il est sorti en version adulte.
Voilà. Donc, c'est pas une version adulte, hein. C'est Gallimard... Jeunesse. C'est Gallimard Jeunesse, mais un brochet. Donc en fait, il mise beaucoup sur ce roman à cause de la sortie du DVD, en fait, manifestement, qui va repousser des gens à lire ce roman que je recommande donc chaudement. Pour nous parler des mauvais genres, c'est Chiffonnette qui s'y colle avec un thème fantasy burlesque. Mmh. Va-t-on rire?
J'espère. En fait, la fantasy burlesque, j'ai commencé comme beaucoup d'amateurs du genre par Terry Pratchett, le maître absolu et incontesté du genre britannique de son état. Et j'ai découvert, au cours d'une incursion chez une maison maintenant bien connue, encore que parfois controversée, j'ai nommé Milady, qu'il rééditait un autre classique du genre que je ne connaissais absolument pas. Évidemment, ma curiosité n'a fait qu'un tour, je suis extrêmement faible, et je suis partie à la découverte du Monde de Xant, qui a été créé par Pierce Anthony. Pierce Anthony est un auteur américain, qui a commencé à écrire dans les années 70, donc c'est une série qui commence à dater, qui compte aujourd'hui une trentaine de volumes. Je crois que le dernier est paru aux États-Unis en 2008, donc c'est une affaire de très longue haleine. Alors Xant, de quoi s'agit-il ? Xant est un monde enchanté où règne la magie, où chaque être humain est doté d'un pouvoir. Alors attention, c'est quand même pas des pouvoirs extrêmement intéressants. Enfin, quelques-uns ont des pouvoirs extrêmement intéressants, mais c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, il y en a quand même certains qui parviennent à creuser des trous sous les pas des gens.
Ça me rappelle quelque chose,
j'y viendrai après. Après, nous avons quelques personnes qui peuvent créer des murs, d'autres qui ont des dons, qui sont des noms extrêmement poétiques, comme le crâne miche. Je pense qu'on devine tous de quoi il s'agit.
C'est un danger, non, c'est pas ça.
On peut le voir comme ça. Rôtisseur peut-être serait plus adapté, mais bon. Donc sur ce brave monde de Xant, tout le monde vit fortement heureux, etc., etc. Sauf Bini, qui, le pauvre malheureux, n'a pas de pouvoir magique. Or, sur le monde de Xant,
ça rappelle de plus en plus quelque chose.
Quand à 25 ans, on n'a pas fait montre de son don, on est exilé dans l'affreux monde extérieur où il n'y a pas de magie. Affreux, affreux, n'est-ce pas? Donc Bing va tout faire pour découvrir son don jusqu'à partir à l'aventure pour aller voir un magicien extrêmement puissant pour savoir s'il a oui ou non un don. Et alors là, évidemment, il va lui arriver plein de choses puisqu'il va croiser entre autres quelques dragons, des chimères, des lézards, quelques cancoyotes, des mitrailleuses et ainsi de suite. Ce sont des bestioles bizarres et très méchantes en fait. Il faut savoir que dans le monde de Xant, l'une des caractéristiques de la saga de Pierre Santoni, si on peut appeler ça comme ça, c'est son humour. Donc tout au long, en tout cas du premier volume, qui s'appelle Lune pour Caméléon, on va trouver pléthore de jeux de mots complètement idiots, de calembours, de situations complètement absurdes. Donc je sais pas, par exemple, la fameuse mitrailleuse, qui est une bestiole pas très sympathique.
C'est difficile pour le traducteur, ça.
Ça doit être extrêmement difficile pour le traducteur. C'est vrai que le travail est extrêmement, à mon avis, extrêmement bon. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de choses qui sont... ça coule de source, c'est jamais... Jamais très fin, je suis quand même pas très tendre que c'est un monument d'humour, d'une rare finesse. Mais c'est très bien traduit, c'est bien trouvé en général, c'est très cohérent par rapport à l'univers qui est développé. Alors bon, par contre, je vais pas dire que ça m'a enthousiasmée, c'est un très bon roman, c'est une série qui est très sympathique, c'est quand même pas la série du siècle. Ça sent un petit peu les années 70. Mais en tout cas, à mon avis, je connais un certain gang qui sévit en bande dessinée qui a dû fortement s'en inspirer. Est-ce que vous vous souvenez d'Arleston et de Park?
Ah oui,
de ces années 90 et 2000 où paraissait L'Enfance de Troie. Cette bande dessinée absolument fabuleuse publiée chez Soleil qui racontait les aventures de L'Enfance, le forgeron qui se découvrait un don fabuleux et qui partait à la recherche du Mago Amos flanqué de deux sublimes jeunes filles dont il était évidemment amoureux, sinon c'est moins drôle. Il avait un affreux ennemi, Thanos, dont l'équivalent se rencontre aussi chez Pierce Anthony, avec le magicien 30, mais qui n'est pas si méchant que ça d'ailleurs. C'est une autre histoire. On retrouve dans L'Enfance exactement la même chose que dans Xant, c'est-à-dire ces espèces de jeux de mots qui sont complètement foireux.
C'est pas le prénom qui avait fait les membres de là.
J'ai mis 10 ans à m'en remettre.
Ouais, moi, il m'avait fait beaucoup de la bande de langue, ce même.
Les mêmes tendances aux calembours, aux jeux de pistes, aux allusions plus ou moins fines. Donc je pense qu'effectivement, L'Enfance...
est un héritier
direct ou pas de... de Xanthe. Et c'est vrai que lire L'une pour Caméléon m'a donné fortement envie de me replonger dans l'univers de Lanfeust. Et tant qu'il va à côté de l'univers de Lanfeust, les trolls de Troie, l'Enfeust des étoiles, qui est un petit peu moins bon que l'Enfeust quand même. Hein. J'ai moins accroché à la deuxième série, les gnomes de Troie, etc., etc. Donc, recommandé pour les amateurs du genre qui voudraient découvrir une alternative à Terry Pratchett. N'attendez pas quelque chose d'absolument fabuleux, ça n'en reste pas moins à découvrir.
Donc ce n'est pas forcément le roman que tu conseillerais pour rentrer dans ce genre-là?
Absolument pas, je suis, en ce qui me concerne, une inconditionnelle de Terry Pratchett.
Intéressant.
J'ai plus soin. Mais je crois que Fashion, tu as aussi lu de la bande dessinée, ce qui va nous donner l'occasion d'aborder maintenant la rubrique avec des bulles.
Comme le champagne. Alors, je conseille vivement ce mois-ci en bande dessinée un album dont certaines blogueuses ont déjà parlé, donc je ne suis pas très originale. C'est Bien des choses de François Morel, qui est illustré par Pascal Rabaté, publié chez Futuropolis. Alors, Bien des choses, c'est aussi un spectacle qui est donné actuellement à Paris, mais je ne sais plus où. Ça nous avance beaucoup donc. Et c'est aussi un album. Alors le principe en fait, c'est que l'album est composé uniquement de cartes postales que s'envoient deux couples, les Brochons et les Rouchons, qui comme leur nom l'indique sont donc des espèces de bidochons qui voyagent beaucoup. Hein. Alors ils vont de l'Égypte aux États-Unis en passant par l'Espagne, l'Autriche, le Maroc, etc. J'en passe là. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ne s'écrivent finalement non pas pour parler de leur voyage, de la façon dont ça aurait pu les enrichir, etc., et des découvertes culturelles. Ils ne s'écrivent que pour échanger des banalités sur leurs compagnons de voyage ou pour vérifier, par exemple, pour demander à l'autre de vérifier qu'ils ont bien fermé le gaz, ce genre de choses. Donc c'est très drôle, c'est un peu Vachard dans sa mise en scène de la France profonde en voyage, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est très agréablement mis en page, c'est joliment illustré par Rabaté. Et je vous lis un extrait pour la route. Donc, par exemple, voici une carte postale de Monsieur Rouchon. Cher Monsieur et Madame Brochon, l'Inde est merveilleuse. Éclat de lumière, chatoiement des couleurs, splendeur des paysages. Je pourrais, je crois, finir ma vie ici, devenir un vieux sage philosophe, ascétique, et attendre paisiblement le jugement dernier. Mais comme dit Madeleine, le 18, on s'est inscrit pour la choucroute. C'est pas facile.
On dirait une des cartes postales de Coupé Max sur la partie de la choucroute.
Ne te fais pas du mal comme ça, Stéphane.
Si, non,
ne te fais pas du mal.
Mais crois-tu vraiment qu'on puisse mettre de la philosophie sur des cartes postales?
Non, pas de la philosophie, mais c'est vrai que là, vraiment, c'est... par exemple, il y a un des deux couples qui est champion pour rapporter les blagues vaseuses de leurs compagnons de voyage, et donc on a droit à Libère et Rude, on va à l'Acropole, « Ah, comment savez-vous? Moi, je m'appelle Bernard. » Bon, voilà, c'est que des cartes comme ça, et on est quand même... J'espère que nous n'envoyons pas ce genre de cartes postales nous-mêmes.
Est-ce que tu en es bien sûr?
Le pourquoi vous avez des problèmes du
fichier? Le soleil ne brille-t-il pas sur tes cartes postales?
Non, moi je n'envoie que les cartes postales pleines de culture, comme vous le savez.
Avec un pain.
Enfin bref, je recommande donc ce Bien des choses de François Morel et Pascal Rabaté aux éditions Futuropolis. Les films et des vilaines.
Nous sommes au mois de septembre, donc bien sûr nous ne pouvions pas passer à côté de la rentrée littéraire. Chiffonnette a choisi de vous présenter un premier livre. Il s'agit de La femme de midi de Julia Frank, qui est publié chez Flammarion. Il est paru il y a assez peu de temps. C'est un roman d'une auteure allemande qui a eu énormément de succès, qui s'est déjà vendu en Allemagne à plus de 500 000 exemplaires et qui a donc été traduit pour la France. C'est son premier roman traduit en français. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un roman que je n'ai pas franchement apprécié, ça va nous changer un petit peu, mais je vais commencer quand même par le pitch. Donc en 1945, Peter et sa mère Alice essaient de fuir Cetin, qui est occupée par l'armée rouge. Mais dans une gare, la jeune femme laisse son fils assis sur un banc et ne revient jamais le chercher. Toute sa vie, l'enfant va essayer de comprendre pourquoi sa mère l'a abandonné et va remonter, plus ou moins, c'est du moins ce que j'ai compris, aux sources de l'histoire familiale, en 1920, lorsque sa mère Alice était enfant. Alors, c'est un roman qui a un fond historique extrêmement intéressant. On vit l'après-guerre, le moment de la crise, la montée du nazisme, la guerre elle-même à travers l'histoire d'Alice. En fait, l'histoire d'Alice s'inspire de l'histoire de la mère du père de l'auteur. Oui, bon, tout le monde a suivi,
oui, c'est bon.
C'est son arrière-grand-mère. Elle s'est inspirée de cette histoire-là pour écrire sa grand-mère, pour écrire l'histoire de Peter et de sa mère Alice. Donc Alice, on la suit. C'est une enfant qui naît dans une famille assez atypique. Sa mère est plus ou moins folle. Son père est un homme faible. Et elle grandit sous la protection de sa sœur. C'est une famille difficile, une vie difficile, et les deux jeunes femmes vont finir par partir à Berlin une fois leur père décédé. Et là va commencer une vie nouvelle, une vie pleine d'espoir pour les deux jeunes femmes. Alice est une jeune fille extrêmement intelligente, qui a toutes les capacités pour devenir médecin, mais qui ne va pas pouvoir y arriver, faute à ses origines, faute à son manque d'argent, faute à un certain nombre de choses. Et en fait, à chaque moment du roman, toute avancer vers l'espoir va être littéralement brisé. C'est lourd, c'est dur. Pour moi, ça a été long.
C'est
très très long. C'est très déprimant. Enfin, j'ai vraiment pas du tout accroché. C'est sans aucun doute un très bon roman. Bon, tous les romans qui ont du succès ne sont pas bons, on va pas aller jusque là. Mais il a eu... Nous ne citerons pas d'exemple. Il a eu tout de même des échos extrêmement positifs de la part d'un certain nombre de blogueurs, de journalistes. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. La sauce n'a pas pris. Vous pouvez essayer. On ne sait jamais. En ce qui me concerne, c'est un raté.
Fashion, as-tu au moins plus aimé le livre que tu as choisi de présenter ?
Eh bien, en fait, pas tout à fait, pas vraiment. Moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé un peu mou du genou. Alors, il s'agit de Nouveaux Indiens de Jocelyn Bonnerard, publié chez Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Alors, je raconte rapidement le début de l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un anthropologue français, A, qui se rend en Californie pour réaliser une étude sur un musicien qui est célèbre, et qui est célèbre notamment pour ce musée, qui est aussi pour ses compétences de pédagogue hors du commun. Donc notre A arrive un beau matin aux États-Unis, il est déphasé par le décalage horaire, il est perturbé par l'acclimatation à ce pays qui lui paraît totalement étranger, il passe plusieurs jours dans un état nébuleux, il n'est pas très bien, et en se baladant dans le campus, il voit des photos placardées un peu partout qui représentent donc une jeune femme, et dessous il y a une phrase « We miss you, Mary », donc « Marie, tu nous manques ». Et donc il apprend que cette jeune femme en fait est décédée quelque temps auparavant et qu'elle était totalement anorexique et qu'elle serait apparemment morte de faim. Donc il va mener une enquête sur la mort de cette jeune femme. Alors c'est un roman qui est, que moi je trouve pas top, qui est tenu par sa structure, heureusement d'ailleurs. Donc la structure c'est un mélange entre l'enquête, qui est finie de manière assez glauque, la résolution est glauque, totalement pas crédible, mais enfin ça à la limite... On s'en fiche un peu si c'était bien écrit, intéressant. Donc en même temps, il fait cette étude sur les musiciens. En même temps, donc ça se passe sur fond de réélection de Bush, donc il y a 5 ans. Et c'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus captivant. Donc les blogueuses qui l'avaient déjà lu avaient parlé du style, qui en a rebuté plus d'une et qui avait plu à d'autres. Moi, j'ai trouvé le style franchement assez plat. Et ça ne m'a pas plus fascinée que ça. Voilà, c'est un bouquin qui, à mon avis, ne restera pas dans les annales. Donc, c'était pas non plus un excellent cru pour moi, cette petite rubrique rentrée littéraire.
J'espère que vous aurez d'autres lectures plus satisfaisantes.
Eh bien, nous le souhaitons, en tout cas. On a la rubrique cinéma consacrée donc aux adaptations littéraires. C'est Stéphanie qui s'y colle.
Donc ce mois-ci, je ne vous parlerai pas du petit Nicolas, vous en entendez déjà assez parler. Je ne vous parlerai pas non plus de Lucky Luke, puisqu'il n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas vous dire s'ils ont eu raison de l'adapter. J'ai plutôt choisi de vous parler d'un livre et d'un film qui m'ont énormément plu, Ma vie pour la tienne de Jodi Picou, pour le livre, qui parle intelligemment et d'une situation très difficile, qui est la maladie d'un enfant dans une famille. Donc ici, il s'agit de l'aîné, qui a une quinzaine d'années, et qui a une leucémie depuis son plus jeune âge. Elle a un frère qui malheureusement n'était pas compatible pour les soins, et donc ses parents ont choisi de mettre au monde une petite fille qui a entre guillemets été designée, c'est le terme qui est employé dans la bande-annonce, pour sauver sa sœur. Donc dès sa naissance, en fait, le sang du cordon a été utilisé par exemple pour soigner sa sœur.
et 11 ans plus tard, la petite fille qui est magnifiquement jouée par Abigail Breslin, qu'on avait découverte dans
Little
Miss Sunshine, merci. Donc cette petite fille de 11 ans décide d'aller voir un avocat et de faire un procès à ses parents pour qu'ils arrêtent de la considérer en fait comme une ressource de médicaments pour sa sœur. Parce que cette fois il a été décidé qu'elle devait donner un rein à sa sœur pour la sauver. Et sa mère qui était auparavant avocate décide de reprendre son activité pour ce procès. Ça a été adapté par Nick Cazavet, le fils d'eux, qui prouve qu'il a une excellente capacité à comprendre et à retranscrire un roman au cinéma. Il nous l'avait déjà prouvé auparavant avec N'oublie jamais, qui
nous a toutes fait pleurer.
Voilà, qui nous a toutes fait pleurer.
Moi. Oh, mais toi, tu... Oh.
Terrible, il faut pleurer. Donc, qui nous a presque toutes fait pleurer, avec Jason Gosling.
C'est Ryan Gosling.
Avec Ryan Gosling. Donc, on va laisser, hein, je vais avouer à tout le monde que je n'ai pas de mémoire de nom. Donc, avec Ryan Gosling, pardon, et qui reprenait en fait un roman de Nicholas Park, The Notebook, qui avait été horriblement traduit pour la version française par Les Pages de Notre Amour. On se serait presque retrouvé dans un arlequin sur la couverture.
Ne tirons pas de mal des arlequins.
Je ne tirerai pas de mal des arlequins. J'ai fait mes devoirs cet été, mais quand même. Les romans de Nicholas Park méritent un peu plus qu'un titre, Les Pages de, nos, de, no, de Notre Amour. Et donc ici, comme dans N'oublie jamais, il y a une excellente réécriture du roman. C'est très fidèle, sans l'être, puisque le réalisateur a choisi de changer la fin. J'ai personnellement trouvé, je ne vais pas vous la révéler, que c'était en mieux. Parce que pour le roman, il y avait une sorte de twist à la fin qui m'avait un peu dérangée. Là, on ne le retrouve pas. Ça fait plus naturel au niveau de l'histoire, de la narration, et c'est pour le plus grand plaisir. En plus, il a choisi de donner un rôle, son premier rôle dramatique à Cameron Diaz, qui s'en sort excellemment bien. Elle réussit à prouver qu'elle n'est pas seulement l'actrice de Marie à tout prix et d'autres comédies qui nous ont quand même bien fait rire. On retrouve avec grand plaisir Jason Patrick, et les autres adolescents sont extrêmement bien joués également. Donc c'est un vrai plaisir, sortez vos mouchoirs, n'hésitez pas, même chiffonnet, tu as le droit. Et n'oubliez pas que c'est déjà sorti depuis un moment, donc précipitez-vous dans vos salles.
D'accord. Nous passons maintenant à l'actu des blogs. Alors Fashion, qu'as-tu relevé ?
Alors, d'abord, un truc qui date, mais il faut le rappeler, donc je rappelle que le challenge Jane Austen est ouvert jusqu'au 31 décembre 2009, donc, et que vous pouvez encore vous inscrire, et qu'il est toujours temps, bien sûr, donc il reste un peu plus de, enfin, un peu, oui, 3 mois et des brouettes pour ne pas faire comme moi et faire des billets, puisque je n'ai pas, moi-même, je n'ai pas fait un seul billet sur ce challenge, mais je continue à le tenir, donc vous pouvez toujours vous inscrire. Ensuite, je rappelle qu'on peut toujours s'inscrire aussi au challenge du 1% littéraire chez Livraweg. Donc cette année, il y a énormément d'inscrits, c'est un challenge qui marche très très bien, donc allez-y. J'annonce aussi, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'il y a un challenge très intéressant qui a été lancé par Raison et Sentiment, qui s'appelle le Mathilda Contest, et le but, c'est de lire tous les classiques que lit Mathilda dans le roman de Roald Dahl, qu'elle lit à une allure effrénée et à une vitesse considérable. Donc l'intérêt du challenge de Raison et Sentiment, c'est que, premièrement, la liste des classiques est très intéressante, forcément.
Très intéressante même. On y trouve Jeannette, Orgueil et Préjugés, Thèse d'Uberville, L'Homme Invisible, Le Vieil Homme et la Mer, j'en passais des meilleurs.
Et en plus, deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un challenge qui n'a pas de fin. Vous pouvez vous inscrire maintenant et mettre 10 ans à le tenir. C'est un challenge donc pour nous autres LCA qui croulons sous nos pales. Alors en parlant de pales, Stéphanie a décidé de récidiver et de lancer le 1er octobre le 4e Lotobook. Parce qu'elle a décidé qu'on n'avait rien à lire. Donc surveillez son blog à partir du 1er octobre. Et en parlant de balles, donc je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours vous inscrire à un challenge qui n'était pas un challenge au départ mais qui s'est transformé en challenge, celui d'Antigone, objectif pâle. Alors les filles, ça a bêté ?
Vous pouvez répéter la question ?
rien acheté. Je le déclare sous serment, je n'ai rien acheté.
Eh ben c'est
moi,
bien.
J'ai acheté beaucoup. Je les déclare sous serment et je n'ai pas diminué ma page, je l'ai augmentée.
Quant à moi, de mon côté, je me suis perdue dans les chiffres. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, c'est un challenge qui roule.
Et voilà, c'est fini. Vous pouvez éteindre votre ordinateur
et vous remettre à lire.